pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal sur la Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Alors, bonsoir, et bien ce soir on fait une émission sur le procès de la, on peut dire, de la mort de Quentin, de l'accident qui a coûté la vie à Quentin. Alors, c'était en juin 2017. Le procès a eu lieu donc vendredi dernier à la cour, à la chambre de Reims. Donc c'était, ça a duré 5-6 heures. Je crois qu'on devait avoir normalement un cordiste au téléphone et malheureusement il y a un problème technique qui fait que ça va peut-être pas être possible. Donc il va falloir que nous-mêmes qui étions présents au procès puissent dire un peu ce quoi il en retournait. Voilà, alors je crois que...
On avait déjà fait une émission la semaine dernière avec Eric justement qu'on devrait avoir de nouveau ce soir si tout va bien. Et où on avait présenté le procès à venir, donc il a eu lieu vendredi, et où on avait rappelé qu'il y avait déjà eu un procès en janvier pour deux autres cordistes qui ont trouvé la mort dans un silo à Bazancourt également, mais là c'était un silo de sucre, donc on ne va pas y revenir. Alors on était plusieurs là de l'équipe à assister à ce procès vendredi. Moi, d'emblée, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a assisté en réalité à un faux procès. Et donc, il se trouve que Quentin et ses camarades intervenaient dans ce silo pour dégager des céréales, des betteraves, enfin la drèche. Moi, je pense que c'est que la drèche, une espèce de betterave agglomérée. Peu importe. Nous, personnellement, on s'en fout d'ailleurs de ce qu'il y a dedans. Et donc, voilà, j'ai un trou.
Ça devrait marcher.
Oui, parce que, alors, en même temps, on nous dit que sans doute on doit avoir Eric au téléphone. Je disais donc que c'est un faux procès parce que Cristanol, qui est l'entreprise multinationale qui a commandé les travaux, n'était pas sur le banc des accusés. Ceux qui étaient sur le banc des accusés, c'est l'entreprise intermédiaire qui embauche des cordistes en intérim.
Qui s'appelle ETH.
Et qui s'appelle l'entreprise de travaux en hauteur, ETH. Donc, d'emblée, on sait que c'est faussé. Pourquoi ? Parce que ETH a certainement et a des responsabilités. C'est pas certainement, c'est qu'ils ont des responsabilités. Mais ils n'étaient pas sur place pour encadrer l'équipe. C'est Cristanol qui était là. Et c'est Cristanol qui a fait changer l'équipe de silo. Ils ont fait déséquiper un silo pour faire travailler en urgence, selon eux, l'équipe sur un autre, qui n'était pas encore équipé, donc ils ont dû équiper. Alors, peut-être que là...
Peut-être qu'on a Eric au téléphone. Est-ce que tu nous entends, Eric ?
Allô, oui.
Ah, magnifique.
Bon, ben super.
Bon, on était en train de se dire, là, on se demandait si c'était une attaque du lobby du sucre, mais non, ça va, finalement, on va y arriver.
Bon,
ouais. Bon, est-ce que tu as entendu le début de présentation de
ouais,
Nathalie?
Oui, j'ai entendu le début de présentation, ouais. Ouais,
bon,
ouais.
Alors, toi, tu peux nous évoquer déjà tout ce que cette journée très lourde, très pesante a pu écraser les gens qui étaient là sur cette au TGI de Reims. Alors, vas-y, on t'écoute si tu veux bien.
Je reviens sur ce qui vient d'être dit, là, sur la non-citation à comparaître de Christianel. Christianel était là, mais pas à titre civil, pas à titre pénal. C'est-à-dire que le parquet n'a pas cru bon de citer Christianel, malgré les 5 infractions qui étaient reprochées par l'inspectrice du travail. 5 infractions à l'encontre de Christianel et 4 à l'encontre d'ETH. Et c'est ETH qui se retrouve sur le banc des prévenus et Christianel n'est pas là. On peut se poser des questions à savoir pourquoi. Si on met sur le banc des prévenus une des entreprises, on met la deuxième. Il n'y a pas de raison de ne pas les mettre, puisqu'il y a plus d'infractions constatées à l'encontre de Christianel que de TH. Alors nous, on s'est dit qu'il y a peut-être eu des pressions sur le parquet, parce que Cristal Union, dont fait partie Christianel, c'est quand même le premier groupe industriel de la région rémoise, et qui a un poids économique qui n'est pas négligeable.
Oui.
En tant qu'employeur. Donc on s'est peut-être dit ça. Et puis, ça nous était confirmé, en fait, que effectivement sur le parquet avait pesé des... pas forcément des menaces, mais des pressions, des suggestions pour éviter que Cristal Union comparaisse une fois de plus, parce que Cristal Union, c'est, comme tu le rappelais tout à l'heure, 2 morts en 2012, c'est Quentin en 2017, c'est Jérémy Devaux qui s'est brûlé au 3e degré chez Cristal en 2015... Et puis en 2018, c'est encore un mort à Corbeil dans le 45. Ça commence à faire un peu beaucoup pour une seule entreprise. Donc peut-être qu'il y a des gens au niveau politique, au niveau de la région rémoise, qui souhaitent ne pas voir trop souvent Cristal Union sur le banc des prévenus au tribunal.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de demander la délocalisation de ce procès?
C'est une piste qu'on va suivre pour l'avenir, parce que là, un des gros problèmes de ce procès, oui, effectivement, ça a été la connivence totale entre toutes les parties en présence, sauf les parties civiles. C'est-à-dire que le parquet, déjà, fait pas son travail en ne citant pas Cristal Union, malgré les infractions constatées par l'inspection du travail, mais malgré la demande expresse de la directe. Les supérieurs hiérarchiques de l'inspectrice du travail ont expressément demandé au parquet de citer Christianel.
Ouais.
Cette demande
oui,
est
restée
sans suite. C'est pas un hasard.
C'est
volontairement que Christianel est resté sur la touche.
D'ailleurs, l'inspectrice du travail qui a repris justement les arguments de... parce qu'il y avait plusieurs inspectrices de travail qui avaient travaillé sur le dossier en première, lors du premier procès. Elle a repris les éléments et elle disait justement, quand le juge qui l'a balayé, hein, vraiment, elle a cité qu'elle avait fait une note au parquet,
ouais.
En notant justement les infractions et tout ça. Et en disant que j'ai relevé qu'une seule entreprise avait été poursuivie et que celle-ci, celle qui l'était, ne l'était pas pour toutes les infractions. Et en fait, le parquet est resté sur ses positions, refusant d'inculper Christianel. Ouais,
exactement. Et le parquet est resté sourd à ces demandes-là, le parquet est resté sourd aux demandes que nous, on a faites concernant cette anomalie. Quand on contacte Mathieu Bourrette en personne, qui est le procureur de Reims, il nous dit qu'il n'a pas à nous répondre directement, mais qu'il réserve ses réponses au départ de l'audience ce vendredi, qu'il réserve ses réponses à la cour. Mais Mathieu Bourrette, on l'a pas vu dans l'enceinte du tribunal. Mathieu Bourrette, on l'a vu dehors quand il est venu nous voir pour nous dire de démonter la banderole qu'on avait accrochée sur le tribunal en disant que c'était un lieu... impartial, qu'on ne devait pas manifester de soutien d'une partie ou de l'autre de l'audience sur le bâtiment du tribunal. Il est venu nous voir pour ça.
Oui, j'ai assisté à ce moment de rhétorique assez incroyable. Il est venu avec une grande gentillesse apparente.
Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais.
En disant que Il n'était pas question que le tribunal serve de lieu où on pouvait penser que...
Il n'a pas servi de lieu, en faveur d'une des parties à l'extérieur, mais à l'intérieur, par contre, ça a été le cas. Là, c'est sûr que c'était pas affiché, mais c'était flagrant, quoi. C'était flagrant. Et Mathieu Bourrette, on attend toujours ses justifications de non-citation de Christenol, en attendant, parce que les fameuses réponses qu'il réserve à la Cour, il n'est pas venu les donner à la Cour.
On n'a eu aucune explication de la part de quiconque.
On n'a aucune explication. On a eu une non-réponse et là, on devait avoir la réponse d'entrée de jeu au début de l'audience. On n'a rien eu du tout. Voilà.
Alors, si on veut, je ne sais pas comment tu as prévu, mais on peut peut-être parler chronologiquement le déroulement de cette audience.
C'est assez symptomatique de ce qui s'est passé. Tous ceux qui étaient là au début de l'audience ont pu constater un ronronnement. On s'est demandé d'ailleurs un peu ce qui se passait, pourquoi on était là.
Ça démarrait
vraiment doucement. Hein. Les gars, à mon avis, ils n'étaient pas réveillés depuis longtemps parce que on avait quand même du mal à entendre ce qu'ils disaient. Ouais. Le président qui a ouvert la séance, on a bien vu qu'il découvrait le dossier à mesure qu'il tournait les pages pour présenter l'affaire. Ça, c'est le ressenti général. Après, on peut peut-être se dire que cet homme-là, il est débordé, qu'il n'a pas eu le temps de lire le dossier avant. Enfin, on voit très bien qu'il découvre ce qui se passe dans le dossier au moment où il tourne les pages pour présenter l'affaire. Donc là, ça nous paraissait déjà un peu... on peut se dire que c'est pas ça qui va faire pencher la justice d'un côté ou d'un autre. Et puis... très vite, on s'est aperçu de quel côté, justement, la justice allait pencher quand on a produit les premiers témoins. Le premier témoin, c'est Charles Lanza, qui est un formateur cordiste de haut niveau, qui témoignait en tant qu'expert pour apporter une lumière technique sur les débats, chose qui avait manqué à l'audience du 11 janvier. Et très vite, le président, on sentait qu'il n'était pas du tout à l'écoute de ce que disait Charles, et même... plus que ça, à un moment donné, on a bien vu qu'il était agacé parce que disait Charles, et puis il était agacé du fait que son intervention, elle dure, et il l'a fait comprendre, et puis il lui a posé des questions qui n'étaient pas vraiment en sa faveur. À la limite, il prenait le rôle de procureur plutôt que de...
Oui, exactement, oui.
Donc ensuite, voilà pour l'intervention d'un cordiste. Ensuite,
par contre, moi, je voudrais quand même commenter le témoignage de Charles sur tous les aspects techniques qu'il a développés. C'était justement extrêmement intéressant, très intéressant. Et je trouvais que j'ai trouvé par la suite, puisque ensuite, on a entendu l'inspectrice du travail, que ce qu'avait dit Charles, ça collait complètement avec ce qu'elle elle a développé.
Carrément, c'est ça. De toute façon, on n'a pas mis Charles là par hasard. C'est un des meilleurs spécialistes en France au niveau des travaux sur corps, au niveau de la formation, au niveau de la sécurité. En ce moment, il y a des travaux de réfection sur la Tour Eiffel. Ils appellent ça les campagnes de peinture de la Tour Eiffel qui ont lieu régulièrement. C'est lui qui est en charge de toute la coordination de la sécurité de toutes les entreprises qui interviennent sur la Tour Eiffel en ce moment. C'est pas le premier venu, quoi. Au niveau des certifications, des diplômes, etc., c'est un des gars les plus blindés de France, et il a une expérience aussi bien nationale qu'internationale. Régulièrement, c'est un gars qui va aux quatre coins du monde pour aller former des gens, et pas seulement sous la réglementation française, sous la réglementation internationale. Donc ce gars, c'est une pointure. Et quand il dit quelque chose, on peut difficilement le contredire. Mais ce qu'on a senti tout de suite, c'est que l'hostilité du président a fait que, de toute façon, il pouvait dire ce qu'il voulait. On sentait bien que même l'argument le plus béton, le plus détonnant, il serait pas entendu, quoi. On l'a senti dès ce témoignage-là.
Oui, c'est clair. Pas seulement du président, d'ailleurs, parce que le président a été particulièrement méprisant et dans les mimiques et dans les diatribes, mais également de l'avocat de ETH.
Bien sûr.
Il y a eu des passes d'armes assez, assez furieuses, quoi.
Ah, ben, exactement. Alors, je, je, en, entre guillemets, je pardonne plus à l'avocat d'ETH qu'au président, parce que l'avocat d'ETH, il fait son boulot, il défend son client, il est payé pour ça. Le président, il doit apporter, il doit se faire un avis neutre et apporter une impartialité de la justice, ce qui était loin d'être le cas. Alors effectivement, oui, l'avocat d'ETH, il s'est pas privé pour... C'est pas privé pour le démonter quand c'était à l'encontre de TH, bien sûr, ouais, bien sûr.
Même en remettant en cause ses compétences, puisqu'en fait, quand il a été question de la formation et du contenu de formation, quand il a été question du niveau de formation des cordistes, puisque voilà, il a joué sur cette ambiguïté-là. Le niveau de formation permettait pas, et ils ont coupé les cheveux en 12. Par rapport au fait que la capacité, je ne sais plus comment s'appelle cet examen exactement, mais il y a deux niveaux.
Ouais.
Et le premier niveau permettait d'intervenir en milieu simple.
Exactement, le CPT1, d'intervenir dans des situations simples, pas dans des situations où il y a tous les paramètres compliqués qui viennent se multiplier, évidemment.
Voilà.
Et donc, à la suite de ça, ça c'est bon pour le témoignage de Charles, on a vu de quoi il retournait. Ensuite, c'était le témoignage d'Anthony. Il faut rappeler qu'Anthony, il était dans le silo avec Quentin quand l'accident est arrivé. Il était sur le point de descendre sur la matière quand Quentin a disparu dans la matière. Donc, c'est lui le dernier à l'avoir vu vivant. C'est lui le dernier à l'avoir entendu. Et suite à l'ensevelissement de Quentin... Anthony était avec François et Raphaël en train de pelleter pour essayer de le dégager, et à ce moment-là, c'est ce qu'il a raconté à la barre, il s'est retrouvé enseveli jusqu'au cou. Et il a été tiré de là in extremis par un système de secours bricolé à la va-vite par la vigie et par un des deux gars qui était resté là-haut, et avec l'aide de Raphaël et François qui l'ont aidé à ne pas se faire ensevelir. Lui, il était bien attaché. Et si Raphaël et François n'avaient pas été dans le silo, s'il n'y avait pas eu l'accident, la première alerte de l'accident de Quentin qui a fait qu'on a amené un système de secours à ce moment-là, Anthony ne serait plus là pour en parler. Et malgré tout ce qu'il a pu dire à ce moment-là, malgré ce qu'il a vécu quand il a raconté ça, il n'a pas senti une grande empathie du président, quoi.
Non,
alors,
c'est
sûr. Il a été moins hostile qu'envers Charles, évidemment, parce que je pense qu'il ne pouvait pas trop se le permettre étant donné la situation, mais moi, j'ai pas senti une grande empathie dans ces questions. J'ai pas senti qu'il voulait spécialement en savoir plus et qu'il cherchait spécialement la vérité, quoi.
Non, par contre, le juge a essayé de le déstabiliser en lui demandant de manière insistante le pourquoi. Est-ce qu'il savait qu'il s'était décroché, etc. Ils ont placé au centre de la responsabilité. Le geste de s'être décroché. Alors qu'en fait, ça a été répondu clairement par l'inspectrice du travail qui a dit « Mais ce n'est pas l'enjeu de l'accident. Cet accident n'a pas été causé par le fait d'avoir été décroché ou pas. Il a été fait par le fait de l'écrasement par la masse. »
Bien sûr,
c'est bien ça, je ne me trompe pas.
Bon, là, je pense quand même que pour ceux qui nous écoutent, il faut donner des précisions. Il se trouve que apparemment Quentin, quand il a été aspiré par la matière, était décroché. Parce que nous, ça nous semble évident, on a entendu ça toute la journée de vendredi, mais pour les gens qui écoutent l'émission, là, je pense que c'est pas clair ce qu'on est en train de dire. Et donc, au fond, ce qui a été dit tout au long de la journée, c'est que ce pauvre garçon, s'il n'avait pas été décroché, il n'aurait pas été aspiré par la matière. Et alors ça a été ce qui a été vraiment l'argument, le point central pour pouvoir dire que c'était dommage, mais que c'était quand même un peu de sa faute. Alors que ce point-là, justement, il a été éclairé à la fois par le témoignage de Charles qui disait, lui, que la façon dont les cordes étaient accrochées dans le silo n'aurait pas permis qu'il ne soit pas aspiré par la matière.
Ouais, exactement.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, de nouveau, c'est l'inspectrice du travail qui, elle, a même clairement dit qu'il ne pouvait pas faire autrement que de se décrocher. Et ça n'a pas été interrogé. Personne n'a demandé, Ah bon ? Et pourquoi ils ne pouvaient pas faire autrement que de se décrocher ? Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, moi je parlais d'un faux procès, parce qu'on est à la fois avec pas les personnes qui sont responsables mises sur le banc des accusés, et à la fois on n'essaye pas de comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a personne au tribunal, à part les cordistes eux-mêmes, qui sont capables de décrypter comment on travaille dans un silo, comment on s'accroche, et qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut le comprendre. Personne ne pouvait faire ça, et il n'y a eu aucune interrogation à ce sujet-là. C'est juste, on en est resté à la base, ben, il ne fallait pas qu'il se décroche.
Bah, exactement, exactement, et que ce soit pour... les questions qui ont été posées à Anthony, à l'inspectrice du travail, ou à Charles, effectivement, jamais on est allé chercher le pourquoi de la base. Mais en fait, si jamais cet argument était contré, évidemment derrière il n'y a plus rien qui tient pour eux, puisque ils s'arc-boutaient là-dessus. Donc, il fallait absolument pas que cet argument-là puisse être développé correctement par les parties civiles, évidemment. Et là, ne cherchant pas cette vérité-là, là on peut clairement dire que ce procès était joué d'avance. Il était joué d'avance.
Oui, c'est ça.
Si de manière impartiale, le président, la cour, cherche à savoir l'origine du fait qu'il s'est décroché, etc., on comprend. Et là, le fait de ne pas vouloir aller creuser là, ça veut dire que bah, il voulait pas y aller, quoi. Et même, on avait beau dire ça, que l'inspecteur du travail, comme tu l'as rappelé, a insisté sur le fait que c'était pas du tout la cause du décès, de l'accident. Il voulait pas l'entendre. De même que il voulait pas entendre que on a dit à l'audience et on dit depuis 2 ans que les trappes étaient grandes ouvertes. Il a pas voulu l'entendre.
Oui, alors que quand même, Cristanol l'a reconnu, quoi. Ça, c'est peut-être la partie la plus insensé de tout ce procès.
Eh bien évidemment.
Voilà. C'est ouais. Que le gars de Cristanol, qui n'était donc pas sur le banc des accusés, qui était là pour témoigner dans le cadre de la procédure civile, est venu dire il y avait 2 trappes ouvertes sur 3. Et donc, quand l'avocat de ETH lui dit « Ah bon, mais comment c'est possible ça ?» il répond « Parce que ça s'écoulait pas assez vite. » Donc on envoie des gens déboucher la 3e trappe parce que il faut que ça aille vite. Et ça, c'est un truc complètement hallucinant.
Voilà. Oui, alors, vas-y Eric.
Et le président, malgré ça, le président, lui, on sent qu'il veut tirer Cristanol de ce mauvais pas. Lui, il essaie de faire dire à toute force à Anthony que la trappe est fermée, que les trappes sont fermées.
Ouais,
plusieurs
tout à
fois,
fait.
Avec une histoire de délai, de machin, il demande combien de temps... s'est passé entre le moment où comme si dans ce moment-là tu pouvais évaluer le temps qui se passe entre le moment où Quentin disparaît, le moment où tu arrives sur la drèche, le moment où on te balance une pelle pour essayer de dégager, sans compter qu'entre deux il a failli se faire ensevelir, il s'est fait ensevelir jusqu'au cou, il a failli y rester, tout ça pour essayer de lui faire dire que finalement les trappes étaient fermées.
Oui.
Et pour dédouaner Cristanol, parce que si les trappes sont fermées, évidemment, il n'y a pas... Mais les trappes étaient bel et bien ouvertes. La matière, si les trappes sont pas ouvertes, la matière ne s'écoule pas. C'est impossible. C'est la matière sur laquelle tu marches. Et ça a été dit et répété par plusieurs personnes, ça n'a jamais entendu. Et dans la réunion du CHSCT du 26 juin 2017, soit 5 jours après l'accident, quand Madame Vancaille, l'inspectrice du travail, au cours de ce CHSCT, demande quelle est la règle concernant les trappes de soutirage, est-ce qu'elles doivent être fermées ou ouvertes pendant l'intervention des cordistes, Monsieur Larigaudière, qu'on n'a pas vu là, mais qui était le directeur de Cristanol à l'époque, que par défaut, les trappes sont ouvertes. Et ça, il l'a dit, il l'a écrit, il l'a signé. Et on a le compte-rendu du CHSCT qui le dit. Et la circulaire, il y a une circulaire qui date de... Qui précise les conditions de travail dans des silos, dans des milieux confinés, qui dit que avant de toute intervention dans les silos, dans les milieux confinés, qu'il faut arrêter l'alimentation et la vidange en condamnant à l'arrêt les systèmes distributeurs et verrouiller à l'arrêt tous les dispositifs destinés à faciliter l'écoulement des matières, dont les trappes de soutirage. Ça, c'est écrit. Et M. Larigaudière dit que par défaut, les trappes sont ouvertes. et on envoie des bonhommes là-dedans. Donc, non seulement c'est criminel d'un point de vue humain de faire ça, parce qu'on se doute bien que un sablier géant comme ça de plusieurs milliers de tonnes, ça emmène un bonhomme en moins que rien. Et en plus, il y a une circulaire qui dit que il faut absolument arrêter tous les écoulements de matière quand on fait rentrer des bonhommes. Et ça, ça tombe sous le coup de la loi. Et la cour, ça, la cour, le parquet ne l'entend pas pour faire ses réquisitions. Et la cour, quand on lui dit ça, ne l'entend pas non plus.
Ah bah, c'est-à-dire qu'ils évitent soigneusement qu'on puisse le leur dire. Ah bah oui. Et par contre, je sais pas comment vous avez vécu ça, mais j'ai pas trouvé que l'avocat allait beaucoup dans ce sens d'ailleurs. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de dire, il l'a pas dit.
Lequel d'avocat, Nathalie ?
L'avocat des parties civiles.
Exactement. Alors ça, c'est des pièces qui ont été communiquées à l'avocat. Ça, c'est tiré d'un rapport de la MSA de 230 pages qui a été fait par Éric Perrin et qu'on réclame depuis le début de l'année, depuis tout début 2019, et qu'on a finalement réussi à récupérer. Et l'avocat, il l'a eu dans les mains, l'avocat des parties civiles, Emmanuel Ludo, l'a eu dans les mains. Il l'a transmis au parquet. Alors, je pense qu'il ne l'a pas transmis à temps pour l'audience du 5 avril. Il faudrait regarder les dates plus précisément, mais je pense que pour le 5 avril, le 5 avril, le parquet l'avait, mais il n'y a pas eu le délai précédent qui avait dû être suffisant pour le faire entrer au dossier. Mais ce dossier, ça fait plus de 6 mois que tout le monde l'a, que l'avocat des parties civiles l'a. Qu'il a été mis au dossier, que le tribunal peut le lire, qu'il a été transmis au parquet, et ce document, il est accablant pour Cristanol. Et on n'en a pas du tout tenu compte. Mm. Et pour l'audience du 5 avril, le parquet nous dit que... Enfin, nous suggère, parce que ça, ils ne nous le disent pas, ils ne nous disent rien du tout, mais prend prétexte de ne pas avoir eu ce document pour citer Cristanol, mais ça fait 6 mois qu'ils l'ont, et aujourd'hui, ils s'en servent toujours pas pour incriminer Cristanol. Donc, preuve supplémentaire que le parquet a bel et bien la volonté de protéger Cristanol. Parce que quand on lit les conclusions qui sont tirées de ce rapport MSA, c'est accablant. L'inspection du travail relève 5 infractions, et quand on lit le rapport de la MSA, on relève, alors je ne veux pas dire que c'est systématiquement des infractions, parce que je ne suis pas habilité à dire si c'est des infractions ou pas pénalement. Mais il y a 9 points très très litigieux qui accablent Cristanol. Là, on n'est plus à 5, on en est à 9. Et ce n'est pas les mêmes que les points relevés par l'inspection du travail. Là, on n'est pas du tout sur des défauts de plan de prévention, de ceci, cela, comme il est évoqué dans les conclusions de l'inspection du travail. Là, c'est vraiment des éléments à charge. C'est-à-dire que là, pour résumer très vite, le silo, le SD10, il n'est pas colmaté. On envoie des gars, et c'est ce qu'a relevé l'avocat de TH, on envoie des gars dans un silo qui n'est pas colmaté du tout.
Oui, il a même dit, l'avocat de TH, M. Lacroix, il a dit, vous avez envoyé des gens dans des sables mouvants.
Exactement, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. On peut même pire que des sables mouvants, parce que la matière, elle nous, non seulement on s'enfonce dedans, mais elle nous attire vers le bas. Ouais. Donc c'est encore pire que des sables mouvants. Alors, comme on l'évoquait à l'instant, les trappes sont ouvertes. Les deux trappes, elles sont grandes ouvertes. Il faut savoir que, pour information, pendant que les gars sont en train d'installer les corps, les trappes, elles sont ouvertes. Donc, comme le dit M. Larigaudière. Et là, dans ce rapport de la MSA, il y a les copies écrans du remplissage et vidage des silos ce 21 juin 2017. Et on s'aperçoit que le matin même, pendant que les gars sont en train d'installer les cordes, pendant à peine 2h30, Cristanol vide 480 tonnes de matière.
Oui, ça a été dit.
Et là, ils disent que c'est un silo colmaté. Il y a peut-être une trappe qui est un peu colmatée, mais il y en a deux qui sont grandes ouvertes. Et pendant un peu plus de 2 heures, il y a 480 tonnes de matière qui s'écoulent.
Oui, d'ailleurs, ce que l'avocat fait remarquer, à l'audience, c'est que justement, il aurait suffi simplement de laisser la matière s'écouler pendant quelques heures et c'était réglé, quoi.
Ouais.
Sans, il y avait absolument pas besoin. Voilà. Alors, on peut se demander vraiment pourquoi ils ont décidé d'envoyer, de transférer les gens, de transférer les corps 10 dans le silo numéro 10.
Bah, c'est pour ça qu'on les voudrait bien l'avoir, pour qu'ils s'expliquent là-dessus. Il faut qu'ils s'expliquent là-dessus, parce que là, dans la chronologie des faits, ces gars-là, ils remplissent le silo jusqu'à 9h moins 15 du matin. Jusqu'à 9h moins 15, ils remplissent le silo. Et à 9h, un quart d'heure après, ils décident qu'il est colmaté. Et à 9h, et ça c'est dans le dossier, c'est dans la chronologie qui a été dans les auditions de gendarmerie, etc., de la MSA, l'inspection du travail, à 9h, ils demandent au corps 10 de changer de silo. Faut qu'on m'explique à quel moment, comment on décide qu'un silo est colmaté en un quart d'heure. Quoi. On vient de le remplir, il est rempli aux deux tiers en plus, il est rempli à 61%. Au bout d'un quart d'heure, on dit « Ah, il est colmaté, on fait basculer les gars à l'intérieur. » Ouais, faut qu'on nous explique. Je veux bien, s'il y a une explication plausible, moi je veux bien l'entendre, mais il faut que Cristanol vienne à la barre nous expliquer ça.
On va peut-être faire une pause musicale, là, puis on va te reprendre après. Hein.
Ok, ça marche.
Marchent ensemble sans se séparer. L'union fait la force chez les ouvriers, sur tous les chantiers. Le cœur plein d'espoir, l'espoir de changer cette société. Oh, ils ont lutté. Et ils ont crié, ils ont avancé, souvent les premiers, le drapeau au vent, l'espoir en chantant, les coudes se serrant et maître du temps. Bon, ils ont crié, solidarité. De toute leur cité jusqu'à l'Elysée, stop à la machine, on veut travailler, personne ne les a vraiment écoutés. Bon, ils ont aimé la révolution, mais ils ont perdu toutes leurs illusions, le vent a tourné, balayant leurs idées, et ils sont restés seuls les poings serrés.
sont morts ensemble, sans se retourner, lorsque leurs usines se sont arrêtées.
Revient sur le procès de l'entreprise ETH à la suite de la mort de Quentin. Un procès truqué, tu disais, Nathalie, je ne sais plus quel terme tu as employé.
Un faux procès. On était en train de se dire qu'en fait, c'est un procès qui a eu lieu parce que y a un gars qui est mort, la famille n'est pas contente. Bon, bah alors on va leur faire un procès. Et voilà. Et donc, on a passé la journée de vendredi à écouter des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Un non-désir de savoir réellement ce qui s'est passé, de le comprendre, et surtout un non-désir d'accuser une entreprise qui est au moins autant responsable que l'entreprise qui a comparu.
Ben, et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que le procureur, la procureure en l'occurrence, la substitut du procureur, avait une version déjà écrite, tout écrite, et qui était diamétralement opposée à la version d'un procès précédent qui avait eu lieu, où Christa Noll, cette fois, était à la barre, était condamnée et avait été condamnée. Et là, c'est assez édifiant parce que cette personne, donc la substitut du procureur, elle s'est tout de suite, elle, focalisée sur l'erreur de qui avait été commise et qui semblait, selon elle, être la base de l'accident, tout en disant dans une deuxième partie de sa réflexion que dans le plan de prévention des risques, la chute était évoquée, pas celui de l'enlisement, tiens, le changement de poste des 12 silos, et après, donc, en fait, ce qu'elle déclarait mettait de... alimenter notre moulin et justement l'inculpation possible de Christa Noll, quoi. Donc voilà, c'est ces contradictions qui ont été évoquées par le parquet qui manifestement avait peaufiné sa version et n'a pas voulu entendre les différents témoins, quoi.
Ouais, carrément.
Ouais,
moi je rejoins ce qui vient d'être dit dans la mesure où si on se réfère à l'affaire précédente, le procès d'Arthur et Vincent, on se remémore les 7 ans d'instruction. 7 ans d'instruction pour arriver à une première date d'audience. Là, la justice, à mon avis, elle a fait, entre guillemets, elle a fait vite, puisque la première audience était programmée le 5 avril, à peine 2 ans après l'accident de Quentin, mais en ne citant pas Christa Noll. Je pense que la volonté, c'était juste, comme ça vient d'être évoqué, de satisfaire... Le besoin de justice des proches, des familles, etc., tout en s'abstenant de faire comparaître le principal intéressé. Et en gros, nous laisser des miettes, ETH, hein, qui est une PME d'une quinzaine de personnes. Encore une fois, ça n'enlève rien à leur responsabilité, mais ça n'a pas le même impact que d'asseoir Christa Noll sur le banc des prévenus. Donc je pense qu'ils voulaient se débarrasser vite fait de l'affaire en à peine 2 ans, en mettant une seule personne sur l'entreprise sur le banc des prévenus, et puis nous donner des miettes, on se serait satisfait de ça, et puis on rentrait chez nous contents, quoi. Mais bon, le problème, c'est qu'ils sont tombés sur un os et qu'on ne va pas se satisfaire de ça.
Oui, et puis de toute façon, c'est quand même difficile de se satisfaire de ça, ouais. Parce que tout le monde a bien vu que c'était une parodie de procès, déjà, ouais. Pour commencer, tout le monde l'a vécu de cette façon-là. Et en plus, Et c'est repris dans la presse. J'imagine les parents de Quentin et ses proches entendre de la bouche de la procureure de la République que Quentin était sous l'emprise de stupéfiants et qu'il s'était décroché. Alors ça, c'est quand même incroyable d'entendre un truc pareil, ouais. Alors qu'il a été démontré tout au cours de l'audience par le résultat, en particulier de l'enquête toxicologique, que Quentin avait des traces de cannabis dans le sang, enfin du THC qu'il y a dans le cannabis, qui démontrait qu'il était un fumeur très occasionnel et que la dernière fois qu'il avait fumé, c'était il y a déjà pas mal de temps. C'est-à-dire des traces, rien du tout. Et elle résume ça en disant qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. C'est incroyable d'entendre des trucs pareils. C'est-à-dire que c'est vraiment, de toute façon, je reprends ce que Jean-Noël a dit, je le dis d'une autre manière, ces réquisitions à la fin du procès, je parle là de la procureure de la République, mettaient en avant toutes les erreurs de Cristanol, tout en disant que c'était pas de leur faute. Voilà. Elle a fait un réquisitoire sur lequel, à mon avis, on peut s'appuyer pour faire appel. Parce qu'elle dit elle-même, elle énonce toutes les fautes qui ont eu lieu pendant cette journée, enfin à ce moment de l'accident. Elle les reprend tout en disant qu'il n'y a pas lieu qu'il y ait des informations supplémentaires et que tout est bien comme ça et que Cristanol n'a pas à être mis en examen.
Exactement.
Voilà.
Et ce qui dénote, alors on va citer son nom parce qu'il n'y a pas de raison, hein, Marlène Borde, la substitut du procureur de Reims, qui effectivement se contredit elle-même, et ce qui dénote une ignorance totale du dossier. Cette brave dame, elle vient d'arriver sur Reims, puisque M. Ducrot, le substitut précédent, a été muté dans le Sud. Elle vient à peine d'arriver de prendre ses fonctions au tribunal de Reims, au parquet de Reims, et elle a dû avoir au mieux pris connaissance du dossier l'avant-veille de l'audience. Si toutefois elle a daigné l'ouvrir, parce que si elle a pris connaissance comme le président, c'est sûr qu'elle ne devait pas y connaître grand-chose. Donc elle s'est arc-boutée sur la position du parquet, qui était de ne pas citer Cristanol. Alors effectivement, elle nous délivre un réquisitoire qui va à l'encontre de Cristanol, mais elle ne donne pas suite à la demande de supplément d'information qui a été évoquée par l'avocat des parties civiles, Emmanuel Ludo, qui a été évoquée par Maître Chalot, l'avocat du père de Quentin, et qui a même été évoquée par l'avocat Maître Lacroix, l'avocat de TH.
Oui.
Les trois avocats
étaient d'accord sur ce point.
Un supplément d'information, tellement il y avait d'éléments à charge contre Cristanol, et elle s'est arc-boutée sur cette position en disant qu'il était hors de question que le parquet demande un supplément d'information. De même que le président d'ailleurs, qui l'a rappelé à Emmanuel Ludo pendant sa plaidoirie, en l'interrompant, en lui donnant un numéro du code de je ne sais pas quoi, j'ai pas bien entendu ce qu'il a dit, il l'a interrompu en disant que, pour lui dire, oui, non mais mon gars, n'insiste pas, il n'y aura pas de supplément d'information.
Ouais, ça,
ne sera, on ne veut pas les mettre en examen, point barre. C'est clairement ce qui est ressorti du procès. Et concernant cette connivence de notables entre les industriels, Cristal Union, entre le parquet, entre la cour, et il y a la presse qui vient s'en mêler, parce que comme tu le disais précédemment, ce que tu viens de dire là, quand Marlène Borde dit que Quentin s'est détaché, s'est volontairement détaché, insiste là-dessus, et était sous l'influence de stupéfiants, c'est une phrase qu'on retrouve citée dans l'Union du samedi, et c'est écrit en gros, rouge et en gras, en intertitre.
C'est en intertitre, oui.
Et voilà, et donc
ça, c'est pas le
lambda qui lit ça et qui a pas trop le courage de lire ou qui survole l'article, qu'est-ce qu'il va retenir?
Il va retenir
Quentin
était volontairement détaché dans le silo et était sous l'influence du produit stupéfiant. Ce qui est un mensonge,
soit un mensonge
volontaire, soit un mensonge par ignorance. Parce que comme tu le disais, il y avait des traces infinitésimales dans le sang et le rapport d'autopsie le montre et le prouve. Il était en aucun cas sous influence de stupéfiants. En aucun cas.
Alors, est-ce qu'on peut parler du... Pardon.
Alors, moi je voudrais aussi évoquer les quelques paroles de Cristanol et de... Enfin, qui étaient représentées par un homme, évidemment, et de son avocat. J'ai retenu de la part de l'avocat que, quand même, il est venu dire qu'on ne pouvait pas... accusé Cristanol. Hein. Il n'avait aucun risque, hein, d'ailleurs, puisque personne ne le voulait, et ça n'a pas été le cas. Mais il est quand même venu dire qu'on ne pouvait pas accuser Cristanol. Il avait un texte de loi à cet effet. Enfin, il avait une jurisprudence de la Cour de cassation, dont je n'ai pas relevé la date et tout ça, là, le numéro exact, mais qui dit que seuls peuvent être peuvent être responsables une entreprise qui a sous son contrôle les personnes qui sont placées sous sa direction. C'est-à-dire que pour que, d'après lui, hein, pour que Cristanol soit sur le banc des accusés, il aurait fallu que les cordistes soient placés sous la direction de Cristanol. Alors, ça, c'est pareil. Moi, pour moi, je suis pas avocat, mais pour moi, c'est pas entendable parce que c'est précisément des gens de Cristanol qui ont demandé aux cordistes de changer de silo, d'aller vider l'autre.
Ouais. Hein,
et c'est eux qui sont intervenus. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. En demandant aux cordistes qui étaient en train d'essayer de sortir Quentin, de s'arrêter pour éviter le suraccident. Ça, c'est ce qu'ils ont déclaré.
Exactement, oui.
Voilà. Et alors, je ne vois pas comment on peut dire que les cordistes n'étaient pas sous leur contrôle. C'est absolument faux.
Bah, déjà, d'une part, tout, bah, puisque eux-mêmes, dans les dépositions, ils disent qu'ils ont dit qu'ils ont intimé l'ordre aux cordistes de changer sans avertir la hiérarchie d'ETH, bien sûr.
Oui.
Donc, de changer de silo. Et quand monsieur Maître Néret, qui est une pointure, c'est une star du barreau, Maître Néret, précise, sort cette jurisprudence, il n'a pas l'air de savoir qu'il y a une circulaire qui est sortie en 2005 et qui rappelle l'obligation de tous les acteurs qui ont à intervenir dans la réalisation de travaux en hauteur. Le premier acteur est le donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre, hein.
Voilà.
C'est écrit, la circulaire de la DGT, c'est pas une lettre d'intention, c'est la circulaire de la Direction Générale du Travail, le ministère du Travail. Même si c'est une circulaire, ça a une valeur. Et donc, apparemment, cette circulaire, il la connaît pas, on peut lui donner les références de cette circulaire. Et il dit, cette circulaire précise un petit peu plus loin que le choix de la méthode des travaux sur corde doit être précédé d'une analyse apportant la preuve des impossibilités techniques qui auraient été de nature à empêcher, par exemple, l'installation des moyens de protection collective, qui sont, il faut le rappeler, soit des échafaudages, soit des nacelles, soit des colmatages mécaniques par air, par vibration, etc. Donc, on veut bien croire que ces gens-là, ils sont blancs comme neige, mais il faut qu'ils viennent, sur le banc des prévenus, à la barre, nous fournir la preuve qu'ils ont tout étudié avant de faire rentrer des ouvriers dans les silos. Et on veut bien croire tout ce qu'ils disent, mais il faut qu'ils viennent nous le dire. S'ils étaient si sûrs de leur innocence, ils viendraient nous le dire à la barre. Or, ils ne viennent pas le dire à la barre. Et puis, pour revenir sur ce que... On va citer Maurice Lombard aussi, puisqu'il n'y a pas de raison, puisque lui, c'est le représentant officiel de Christian Lignon. À chaque fois qu'il y a quelque chose avec Christian Lignon, c'est Maurice Lombard qui vient à la barre, justement. C'est le directeur industriel de Christian Lignon, et j'ai envie de dire que c'est le valet d'Olivier Debohan, parce que le vrai responsable, le PDG de cette société, à qui elle appartient, cette société Christian Lignon, le groupe Christian Lignon, avec ses milliards, ça appartient à Olivier Debohan. Et monsieur Olivier Debohan, il ne veut pas mêler son nom et sa dynastie dans une vulgaire affaire de mort d'ouvrier. Donc il envoie son valet, Maurice Lombard, en tant que faire-valoir, pour venir à la barre nous expliquer tout ça. Et quand Maurice Lombard, qui est un notable champenois, arrive à la barre, là, Pierre Creton, le président de la Cour, il se redresse, il est attentif, il est droit, il est avenant. Et puis, c'est comme s'il déroulait un tapis rouge à M. Maurice Lombard, qui est le représentant officiel de M. de Bohan, Cristal Union. Et là, et ça, pour eux, on l'a vu.
Tout le monde a remarqué, ouais, cette attitude.
Le seul témoin qui a fait l'objet, comment dire, je trouve même pas le mot, mais qui a fait objet d'un peu d'attention et de respect, c'est M. Maurice Lombard. Et à la limite, moi, ce que j'ai entendu, c'est que quand M. Maurice Lombard avait du mal à finir ses phrases, c'est le président qui lui terminait quasiment. Hein. Donc là, on peut, c'est une connivence totale entre toutes les parties qui étaient en présence, et sauf évidemment nous, les parties civiles, quoi.
Alors, dans 10 minutes, l'émission se termine à peu près.
Il faut absolument parler de la mobilisation des cordistes et de vos projets, projets qui sont très importants.
Oui, et puis, il faut quand même dire qu'on aura le résultat de ce procès, la décision,
le 6 décembre.
Voilà.
Exactement.
Et qu'on sera mobilisés également.
Pardon ?
On sera mobilisés également pour cette...
Ah bon, on essaiera d'être présents, sachant qu'on n'est pas tous tout prêts, donc on essaiera quand même de faire... d'être présent symboliquement, parce qu'en plus là comme ça s'est mal passé. J'étais pas en ligne tout au début de l'émission. Est-ce qu'il a été dit les réquisitions du parquet
à l'encontre de TH? Non, on les a pas dites, non. On peut y aller.
Savoir que ça s'est soldé cette journée de grand guignol, c'est soldé par une réquisition de madame Marlène Borde à l'encontre entre guillemets de TH. Et pour la mort d'un gamin de 21 ans, étouffé dans un silo, par 36 degrés à l'ombre, après une journée de boulot, après des semaines de 48 heures, à taper à la pioche et au marteau piqueur, c'est 10 000 euros d'amende avec sursis.
Ouais.
Ça veut dire ce que ça veut dire.
Ouais.
10 000 euros d'amende avec sursis. C'est-à-dire que ETH, si jamais cette peine est confirmée, ETH devra à l'État français 10 000 euros d'amende, mais attention, simplement... au prochain mort, pas à celui-là. Donc là, c'est un sursis. Donc ils ont encore le droit, ils ont le droit à une deuxième. Ils ont un joker en fait. Là, ils ont un joker. Et bon, on va pas non plus rappeler l'importance de la somme. 10 000 balles pour une entreprise, c'est une pièce de 20 centimes, quoi. Voilà. Donc ce procès-là, on a terminé en apothéose ce grand guignol de vendredi sur cette note-là. Et effectivement, on aura le délibéré le 6 décembre. Ouais.
Ah, maintenant, parle-nous un petit peu de vos projets.
Alors donc, eh bien, évidemment, l'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires, était présent devant le tribunal et à l'intérieur de la salle d'audience pour suivre les débats. Et donc, on n'a évidemment pas l'intention d'en rester là. Là, tu nous parles de nos projets. J'ai du mal à te répondre parce que là, on est encore en phase de réflexion. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive... On va absolument pas lâcher l'affaire, c'est clair.
Ouais.
Là, on a 2 mois avant le délibéré, même si le délibéré, ben, on a bien compris dans quel sens il allait aller. Nous, ce qu'on attend précisément dans ce délibéré, c'est la position de la Cour vis-à-vis de Cristal Union, à savoir si cette demande de supplément d'information va être validée, supplément d'information qui pourrait être amené à poser un responsable de Cristal Union sur le banc des prévenus au cours d'une prochaine audience. On n'a pas trop d'espoir là-dessus, mais on va quand même attendre le délibéré pour annoncer ce qu'on fait. Mais en attendant, on va étudier toutes les pistes possibles et imaginables, et il y en a, pour pouvoir arriver à nos fins. C'est même pas arriver à nos fins à nous, c'est que la vraie justice soit rendue. Parce que au-delà de l'association des cordistes, etc., il y a les familles. Il y a les parents de Quentin, il y a ses frères, ses oncles et tantes, ses grands-parents. Il faut que ces gens-là, il faut qu'on leur dise le comment, du pourquoi et de pourquoi leur gamin il est plus là aujourd'hui, quoi. Et ça, pour l'instant, ils l'ont pas entendu, ça. Et donc,
un petit peu quand même, hein, parce que le gars de Cristal Union a quand même dit que bah ils ont envoyé des gars parce qu'il fallait que ça s'écoule plus vite.
Oui, bien sûr.
Voilà, ça n'allait pas assez vite.
Pas assez vite, non, mais effectivement, pas assez vite. Bah, je sais pas ce qu'il leur faut. Hein. Moi, je disais tout à l'heure qu'en l'espace de deux heures et demie, ils ont vidé 480 tonnes de matière. Ça fait, plus, ça fait l'équivalent de 8 Smirmorgs, ça.
Ben oui, mais ça, vous comprenez pas, il faut aller plus vite.
Il faut aller plus vite. Ah ben, de toute façon, c'est le procès...
c'est un procès de classe.
C'est une justice de classe qui a été rendue là. C'est-à-dire que là, on envoie des gars pour que ça aille plus vite, pour faire plus de fric. Hein, faut rappeler que on va mettre des chiffres en comparaison. Quentin, quand il travaille dans ce silo, quand il y meurt, il gagne 11 euros brut de l'heure. Cristal Union, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est 133 millions d'euros de bénéfices nets. On voit, voilà, mais ils n'en ont pas assez, quoi. Ils n'en ont pas assez. Et quand on parlait, une petite anecdote également concernant la fin du procès, à la fin d'un procès, en toute logique, et là, il faut savoir ce que dit le droit exactement, si c'est une tolérance ou si c'est une obligation. On se souvient qu'au 11 janvier, les proches...
Le 11 janvier, Vincent, donc, le procès qui concernait Arthur et Vincent.
Arthur et Vincent, les proches d'Arthur et Vincent ont été, à l'issue des débats, à la fin, toute fin des débats, ont été invités à venir s'exprimer à la barre. On s'en souvient très bien de ça. Mmh. Vendredi, le président, en aucune manière, il a invité les parents, les proches de Quentin à venir s'exprimer à la barre.
Complètement.
Mmh. Et ça, c'est un dû. On revient encore dans le mépris total de ces gens-là. On leur a même pas demandé de venir s'exprimer à la barre sur leur gamin, quoi. Et en revanche, on demande à Julien Cellier, le gérant de TH, de venir. On lui demande de venir à la barre pour lui demander s'il a une dernière chose à dire. Alors déjà, l'inégalité de traitement qui est là. Et Julien Cellier, quand on lui demande ce que lui évoque, cet accident, cette audience, etc., il répond, c'est juste un échec.
Ouais. C'est juste un échec.
Ouais. Et ce à quoi l'avocat quand même répond, c'est un drame absolu.
L'avocat du père de Quentin dit c'est un drame absolu. Mais quand même, pour Julien Cellier, la mort d'un gamin de 21 ans, au sein de son entreprise, c'est juste un échec.
Mais écoute, on te remercie.
Hein, merci à vous. Je tiens à vous remercier parce que depuis le début de ces affaires, parce qu'on est sur la deuxième, vous êtes là et puis vous nous faites entendre. Et c'est vachement important. Parce que
on continuera d'être là.
Nous font entendre.
Tu nous quittes pas, on te reprend en antenne.
Ça marche.
Bonne soirée.
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'était les Grégoire. Chaque semaine, sur les Coligaries à Montpellier, Canassul à Toulouse, la Locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.alautre.net et sur le blog de Chat Noir 51.